Les raisons de la nomination de Roncalli à Paris demeurent quand même pour une part énigmatiques. C'est Pie XII qui va aller chercher Roncalli. C'est vraiment un choix du pape, et Pie XII va revendiquer véritablement ce choix, qui apparaît quelque peu paradoxal, parce qu'en fait, il est simplement délégué apostolique en Turquie et en Grèce, ce qui est quand même un poste relativement subalterne. Pourquoi ce choix? Effectivement, Pie XII connaissait personnellement Roncalli, peut-être aussi le fait de se retrouver, disons, en Turquie, en Grèce, dans des pays où le catholicisme était bien loin d'être majoritaire, peut-être à ce moment-là est-ce considéré par le pape comme favorable pour Paris, dans la mesure où on est en train de découvrir que la France n'est peut-être plus tout à fait chrétienne.
Alors, Roncalli arrive en France fin 1944, dans un pays traumatisé par la guerre. Les catholiques eux-mêmes sont divisés entre pétainistes et gaullistes. Comment Roncalli va-t-il parvenir à redynamiser l'Église de France ?
Quelque part, Roncalli va se retrouver alors au cœur des tensions. Alors, la plus grosse affaire, c'est la demande du gouvernement français de la démission forcée de 25 évêques, qui étaient trop soumis aux demandes du gouvernement de l'État français. Alors, Roncalli se retrouve en face de cette demande, qui est une demande jugée à Rome absolument exorbitante. Le seul précédent dans l'histoire, c'est Napoléon, qui, avant de signer le concordat, va obtenir de Rome la démission forcée de tous les évêques. Mais on n'est pas dans la même situation, donc Rome ne l'accepte pas. Le gouvernement français va néanmoins avoir une action de sagesse en nommant une sorte d'enquêteur, une sorte de juge d'instruction pour instruire le dossier de ces évêques. Et au terme, eh bien, la négociation aboutira. Simplement, il y aura la démission de 5 évêques. Il faut dire que dans cet ensemble, vous aviez quelques incohérences. Vous aviez notamment sur la liste Mgr Piguet, évêque de Clermont, qui certes avait été très pétainiste, mais qui avait été déporté à Dachau. Donc, demander sa démission, alors qu'au contraire, revenant de Dachau, il était considéré pratiquement comme un héros dans son diocèse, c'était tout à fait incohérent. Alors après, Roncalli aura des liens, et c'est ce qui va caractériser sa nonciature, c'est un homme qui a des liens avec tout le monde, qui n'a aucune exclusive, et il y a même d'anciens collaborateurs qui seront reçus par le nonce, ce qui va indisposer, bien entendu, de l'autre côté. Mais vous avez aussi des liens de cordialité qui se noueront entre le nonce et des hommes du gouvernement qui sont socialistes, radicaux socialistes. Par exemple, rencontre avec Édouard Herriot. Alors, il y a bien sûr des bons mots qu'on raconte, que la tradition raconte. Tous les deux étaient un peu ventripotents. Et il lui dit, oh, nous ne sommes peut-être pas de la même paroisse, mais nous sommes du même arrondissement. Là aussi, ça sera extrêmement étonnant. Une des choses assez extraordinaires, c'est que quand Roncalli quittera l'annonciature de Paris, il donnera une petite réception à laquelle il invitera les différents présidents du Conseil qu'il a connus. Et tous viendront. Et c'est ça qui est extraordinaire, alors que beaucoup n'apparaissaient pas comme favorables a priori à l'Église. C'est vraiment la grande capacité relationnelle de Roncalli qui va se révéler là.
Alors justement, cette capacité relationnelle, il l'exerce aussi auprès de ses collègues ambassadeurs d'autres pays comme l'URSS. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce réseau qui lui permettra de construire cette vision originale des relations internationales qu'il déploiera ensuite une fois devenu pape ?
Je crois que c'est très juste parce que il ne faut pas oublier que sous Pie XII, effectivement, l'anticommunisme était très fort et il était justifié parce que on est quand même au moment où se mettent en place les entre guillemets démocratie populaire en Europe centro-orientale, et là, eh bien, vous avez une persécution de l'Église. Donc Pie XII va combattre énergiquement le communisme. Roncalli, lui, eh bien, effectivement, va nouer des liens avec tous les ambassadeurs et même celui du RSS. C'est quelque chose qu'il avait fait également en Turquie, dans un contexte qui était extrêmement singulier, puisqu'on était dans un pays neutre, où il rencontrait aussi bien l'ambassadeur d'Allemagne que l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Donc, il avait noué des liens sans exclusive avec tous, et ça va se continuer quand il deviendra pape, bien entendu, puisque là-dessus, on notera une véritable inflexion par rapport à l'URSS, non pas au point de vue doctrinal, absolument pas, mais avec la conviction que s'il y a des hommes de bonne volonté, eh bien, on peut discuter. C'est quand même la conviction qu'il faut s'ouvrir, et là, on le verra formidablement dans l'année 1962-1963, à la suite de la crise de Cuba, et puis à l'époque donc de Pachem Interis. Ce sont des fruits de cette attitude comme nonce, d'une part à Ankara et d'autre part à Paris.
Un des paradoxes de Roncalli, c'est que lui n'était pas du tout un progressiste, et quelqu'un qui avait une vision plutôt traditionnelle de la liturgie notamment. Est-ce que les expériences qu'il a pu observer en France l'ont inspiré dans la démarche conciliaire quelques années après ?
Quelque chose à quoi il va être sensible, ça va être le cardinal Suard, archevêque de Paris. Suard va l'emmener en banlieue parisienne, va lui faire découvrir cette réalité, alors qui est une réalité un petit peu multiforme, où vous avez, vous savez, c'est l'époque à peu près où Gilbert Cesbron écrit son livre « Les saints vont en enfer », dans lequel vous trouvez l'expérience des prêtres ouvriers. Vous avez le cardinal Suard qui va essayer d'initier le nonce à ses expériences françaises. Là, il va voir cette laïcité, il va voir ses expériences pastorales, et c'est quelque chose qui va quand même le marquer. Il ne faut jamais oublier que la spiritualité roncalienne, c'est se laisser instruire par ses expériences. Considérer que Dieu l'instruit au travers de l'expérience de sa vie. Petite phrase clé qui figure dans le discours d'ouverture de Vatican II, c'est l'histoire qui est maîtresse de vie. Cette phrase, il se l'applique à lui-même avant tout. Dieu lui parle à travers les événements de sa vie. Pendant le conclave, il y a un petit épisode intéressant, c'est le journaliste de Paris Match qui fait un papier sur le conclave après la mort de Pie XII, et il dit textuellement, les intégristes n'ont pas de bons candidats, ils pourraient se rallier au cardinal Roncalli, patriarche de Venise, qui a été nonce à Paris et qui s'assied au bord du canal pour parler avec les gondoliers. Il a fait le bon choix, le journaliste, hein, puisque effectivement c'est Roncalli qui sera élu, et il le note fort justement par l'aile conservatrice du conclave, mais il pointe bien l'aspect pastoral de Roncalli. Et cet aspect pastoral, on va le trouver effectivement dans les deux axes qu'il donne au concile, l'axe écuménique, l'axe pastoral. Et cet axe pastoral le poussera justement à émettre le souhait, qui sera honoré par les pères conciliaires, qu'il n'y ait pas de condamnation. Il va relire ces événements et se laisser façonner par Dieu au travers de ces événements.